idées cultes, exploration de planches iconiques de l'histoire du 9e art. Ce mois-ci, nous allons nous pencher sur les Tuniques Bleues, une série qui a duré plus de 50 ans, 3 générations de lecteurs, les papis de la BD, Lambille et Covin. 25 millions d'exemplaires vendus, 14 langues, c'est magnifique. C'est une série qui explore l'univers de l'Ouest et du Far West. C'est la série qui va remplacer Lucky Luke dans Spirou en 68. Et ce qui est très étonnant, effectivement, c'est qu'on a à la base un dessinateur, Will Lambille, qui est un dessinateur de remplacement. Il remplace Salverius. Et Raoul Covin, lui, il est scénariste par accident. Et cette formule un petit peu improbable va durer quand même plus de 50 ans, donc c'est assez étonnant. Alors, on va effectivement utiliser l'idée qu'il y a toujours un album, ça continue, les Tuniques Bleues. On est au tome 68, malheureusement Covin n'est plus avec nous, on a un nouveau scénariste, Fred Neddart, et le tome 68 avec Lambille toujours au dessin, c'est l'or de l'or pour les Bleus, il vient de sortir au mois de novembre 2024, voilà. Alors, on va évoquer, nous, l'album 51, les pages 14 à 16. C'est un album qui est sorti en 2007. Et c'est toujours intéressant, avant de nous rappeler qui sont ces grands auteurs. On va commencer par le dessinateur, Willy Lambille, né en 1936. Il a fait l'Académie des Beaux-Arts à Bruxelles, il y est resté un an. Il est rentré à 16 ans très vite comme lettreur chez Spirou. Il a fait une petite série plutôt réaliste qui s'appelait Sandy et Hopi. Hopi est un kangourou et ça a été publié dans le journal Spirou, mais Charles Dupuis n'a jamais voulu que ça passe en album. Donc on n'a pas de traces aujourd'hui physiques, papier, à part retrouver des vieux Spirou. Et il a achevé l'album L'Outlaw des Tuniques Bleues. Donc la série a été créée par Salverius, qui est malheureusement décédé d'une crise cardiaque en 72. Et Lambille reprend au débeauté, il achève cet album. Et en 73, il crée avec Covin toujours une série. Donc là, c'est intéressant, c'est Pauvre Lambille, et c'est une autoparodie de son travail de créateur parfois contrarié. Contrarié, mais assez besogneux, puisqu'il va produire une planche par semaine. Et il va énormément se documenter. Il avait amassé quantité de photographies sur la guerre de sécession, quantité de peintures. Bon, il a toujours fait du noir et blanc, il a délégué les couleurs à Leonardo. Leonardo, c'est le coloriste un petit peu officiel du journal Spirou, qui va travailler à la fin avec un ordinateur. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il s'est brouillé pendant près de 5 ans avec Covin, où ils ne se sont plus jamais téléphonés. Avant, ils ne se rencontraient pas, ils se téléphonaient quand même, on le voit dans la série BD, ils sont là, il y a une brouille un petit peu mystérieuse, et ils vont juste communiquer par courrier interposé, c'est-à-dire que Covin lui envoie son storyboard, et puis Lambille l'exécute. Alors, Raoul Covin, il nous quitte en 2024, il était né en 1938, et lui, il avait fait une école Saint-Luc à Tournai, il voulait être lithographe, mais le métier, malheureusement, diminue de plus en plus, il ne trouve pas de boulot, donc il va faire des petits boulots. Il va rentrer au studio Spirou en 1960, il va travailler sur des dessins animés, et aussi sur les mini-récits du journal Spirou, des petites histoires qu'on dépliait et qu'on repliait pour faire des petits albums. Et donc, Delporte, le génial rédac-chef qui avait lancé les idées noires, et puis le Trop Bon Illustré avec Franquin, va lui commander une histoire longue, Les Naufragés. Et ces Naufragés va être le premier album de Claire Bretéché, qui va faire ensuite tout un tas de séries dans la presse mainstream. En 68, il rencontre Salverius dans les petites histoires du journal Spirou. Salverius a toute une culture, il aime beaucoup le monde des Indiens, et donc Covin va lui écrire des histoires. Et malheureusement, Salverius décède en 1972. Alors, Covin, lui, c'est quelqu'un qui a un contrat d'exclusivité avec Dupuis. Il va toujours rester dans cette maison, alors que Lambille va partir chez Dargo. Lui, il va travailler sur l'idée du gag visuel. Il va travaillé sur des séries iconiques, Spirou avec Broca, sur 3 albums, mais ça va pas être une grosse réussite, malheureusement. Il va évoluer petit à petit vers l'humour noir. Alors, on passe en série Les Femmes en Blanc, Pierre Tombal, La Parodie, Cupidon, L'Agent 212, Les Psys, Samy, et aussi sa grande série de l'enfance, Cédric, qu'il va commencer en 1987. Et l'image qu'on a de Cauvin, c'est quelqu'un qui cherche son inspiration couché dans son canapé. Il a souvent des idées très précises et il va les coucher sur un storyboard, c'est-à-dire un découpage en cases avec des dessins sommaires. Et pareil, il se documente. Pour les Tuniques Bleues, c'est énormément de livres d'histoire. Chaque histoire des Tuniques Bleues a une base d'une histoire réelle. Voilà. Alors, on va maintenant écouter les planches 14, 15, 16 de l'album 51. Se rappeler que cet album s'appelle Stark sous toutes les coutures. Alors, le capitaine Stark, c'est un grand chef d'armée, un chargeur viscéral, toujours à la tête de ses troupes. Mais on apprend qu'il avait failli devenir tailleur pour hommes en Pennsylvanie. Effectivement, avec l'arrivée de la guerre, le destin lui a bien entendu donné tout un autre sort, et de batailles sanglantes en affrontements virils. Il est chef de file du 22e de cavalerie, et il a pris pas mal de plomb dans la tête, et se retrouve plongé dans un mutisme assez déconcertant. Et il va se trouver que dans cet album, eh bien, dans les planches que nous allons écouter, il se passe quelque chose et notre Stark va peut-être revenir à la vie. Alors, nous allons commencer à écouter ces 3 planches de cet album 14, 15, 16. Alors, nous avons donc Blutch qui parle à son copain Chesterfield et ils sont en train de parler de l'histoire de Stark qui se tient à côté d'eux, immobile, sans les écouter. Blutch. Les éclats dans la tête, c'est ça qui l'a rendu zinzin. Bon, d'accord, pas assez pour en faire un sergent. Mais vous avouez quand même, il en est fallu d'un poil. Chesterfield en colère. Oh, vous ! À votre avis, pourquoi depuis reste-t-il rivé à sa selle à longueur de journée ? Chesterfield, la peur d'être une nouvelle fois surpris dans son sommeil. Une chance qu'il s'en soit sorti vivant cette fois-là. Vivant, ouais, mais un peu fêlé. Chesterfield, peut-être trouvera-t-il un jour la mémoire, il suffit des fois de peu de choses. À quoi pensez-vous ? Ouais, moi je pense à Frank Sloam, le vague-mestre, le facteur. S'il se sort vivant de cette satanée guerre, il peut dire adieu aux travaux de la ferme. Pas facile de traire une vache avec un crochet. Ouais, quant à Stark, si un jour quelqu'un avait envie de lui commander un costard sur mesure, quand il verrait le résultat, il lui ferait passer un sale quart d'heure, hein. Drôle de guerre. Chesterfield, s'il s'en sort vivant, comme vous dites, la patrie leur en sera reconnaissante, elle n'oubliera pas ses héros, et surtout ceux qui auront versé le sang pour elle. Ouais, vous êtes sérieux là ? Absolument. Bien alors, dans ce cas, à votre place, moi, j'irai le rejoindre avec un dingue de plus ou de moins sur le dos. Croyez-moi, le cheval ne se sentira pas trop la différence, quoi. Ouais. Alors. Et là, tout d'un coup, le clairon retentit, ça va être l'attaque. Ta-ta-ta ! Ah, Blutch, les confédérés, il manquait plus que ça. Chesterfield, ouais, et bien cette fois, tâchez de vous montrer à la hauteur. Blutch, vous pouvez compter sur moi, sergent. Ouais, ça m'étonnerait. Stark mène la troupe, sabre au clair, et il entonne son mythique « Chargé !» Et on voit la troupe des nordistes monter au front contre les sudistes. Et là, Chesterfield se retourne et voit Blutch tomber de cheval. Chesterfield. « Ah, Mimia, hein, cette fois, c'en est trop. Remontez sur cette carte, nous !» Wham ! Tout d'un coup, un obus vient tomber à leurs pieds et fait tomber les hommes de leurs chevaux. Et Stark tombe d'un seul coup, très fort, par terre. Blam ! Chesterfield. Bon sang ! Capitaine ! Capitaine ! Blutch. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Amenez-vous, vous allez m'aider à le transformer en infirmerie. Chesterfield. Votre cheval va mieux ? Blutch. Ouais, il a juste fait un petit malaise. Andouille. Voilà, à suivre. La question, est-ce que notre ami Stark va se relever et dans quel état? Voilà. Alors, donc, commentaire rapide de ces trois planches. On voit un gaufrier classique, hein, hormis la demi-page de la planche 15 qui montre l'action de la charge, on est sur de la BD très classique. Mais quand même avec un beau sens de l'épique, avec à la fois une alternance entre la violence des combats, on voit notamment l'arrière-fond marron, hein, qui montre qu'on est quand même dans quelque chose d'assez violent, et puis un côté bucolique où on voit nos héros dans la campagne discuter. Et l'opposition, elle est clairement montrée entre Blutch qui est plutôt assis, qui est plutôt en mode « je fais la sieste, je me détends », et Chesterfield, lui, qui est plutôt en mode donneur de leçons et un patriote et qui reste debout. Et effectivement, le gag que l'on voit dans une planche, c'est que Chesterfield veut à chaque fois empêcher la chute truquée de Blutch. Blutch, effectivement, fait semblant de tomber tombe de cheval avant d'être touché réellement, et donc son cheval a appris à se cabrer, et comme ça il survit aux différentes attaques menées par les nordistes. On note la puissance des onomatopées, on entend du blaf, du blâme, du wham, donc effectivement il y a de l'action, et effectivement aussi ce côté introspectif où Blutch va régulièrement mettre en avant, interroger, se poser la question du sens de ce qui se passe finalement, est-ce qu'on a bien choisi le bon camp, drôle de guerre, hein. Et le cliffhanger est assez ironique, on parle du sort du cheval, le cheval il a fait comme d'habitude, il a appris, il a fait la comédie, alors que Stark lui est KO et il va se réveiller dans quel état? Donc là, le cliffhanger est assez important. Alors, revenir sur Blutch rapidement. Blutch, c'est, on l'a vu, le soldat qui essaie le tir au flanc. C'est plutôt peut-être une image de Covin, qui était un peu anarchiste. Il est petit, rusé. Alors, on reverra dans l'histoire que Blutch était orphelin. Il a fugué à l'âge de 6 ans. Il est devenu garçon de café. Il a été enrôlé malgré lui pendant un soir où il avait trop bu. Il est plutôt antimilitariste, paradoxalement, et il cherche toujours à déserter ou à éviter de mourir en ayant dressé son cheval. On peut relire l'album Le Déserteur, tome 5, et le David, le tome 19. On peut le voir comme un égoïste un peu cynique, mais on peut le voir aussi comme quelqu'un qui aime beaucoup les animaux. Il a une très belle histoire avec sa jument arabesque, qu'il aime beaucoup. Et c'est étonnant, c'est que souvent, il va prendre la place de Chesterfield et va se faire héros malgré lui. Donc il va y avoir un phénomène d'inversion entre les deux personnages. Alors, Chesterfield, lui, c'est plutôt l'ordre, ça serait plutôt une image de Lambine, le dessinateur. Son prénom, c'est Cornelius, il est plutôt gros, débonnaire, il se veut exemplaire. C'est le fils d'un vétéran de la bataille de Fort Alamo, et on voit qu'il porte un idéal patriotique et chevaleresque. Mais souvent, il abdique de façon involontaire face à l'ennemi, donc il n'arrive jamais à être un vrai héros. On peut relire à ce moment-là l'album 18 Blue Retro, qui est assez symptomatique. Il a une relation d'amour-haine avec Blutch, mais on voit qu'il y a une amitié qui est réelle entre les deux personnages, et souvent son rôle va être d'empêcher Blutch de déserter. Alors, le personnage de Stark, il apparaît dans cet album central, puisqu'en fait, c'est une des thématiques, les conséquences de la guerre sur les hommes. Stark est apparu dans l'album, déjà dans le tome 2, du Nord au Sud, à la page 5. Il est un peu plus loquace, et déjà, dans cet album, il est sonné suite à une charge déclenchée. Une charge, et il va déclencher par une réaction une guerre indienne. Et donc, petit à petit, dans les albums suivants, il va être représenté comme un soldat figé sur son cheval, un obstiné aveugle, alors un mi-chemin entre le maître zen ou plutôt quelqu'un de dément, puisqu'en fait, il va entraîner ses hommes à charger en dépit de toute étude de risque. Et à chaque fois, il y a énormément d'hommes qui vont mourir. Et ça, ça reste un peu hors champ, mais c'est quand même réel. Dans les tuniques bleues, on meurt. On va découvrir dans cet album la vie de Stark. Il avait un père couturier et il a fait l'académie à West Point. Il est sorti assez bien classé, 21e sur 56. Il a été blessé à la guerre. Donc les éclats, il a des éclats de grenade dans la tête. Donc on comprend son comportement. Et ce qu'on va voir après, c'est que le choc, sans divulgâcher la fin, va lui redonner la mémoire. Et donc, ce qui est étonnant dans la suite de l'album, c'est qu'il va décider de démissionner. Donc ce qui n'est pas du tout conforme à l'image qu'il avait. Voilà, alors, l'univers des Tuniques Bleues, on le voit, c'est un univers qui mélange la tragédie à la comédie, un peu comme la comédie italienne. Il est question fortement de l'identité de l'Amérique, à travers les deux traumatismes fondateurs, c'est-à-dire les guerres indiennes et le fait que l'Amérique s'est construite sur le génocide des Indiens, quand même, et aussi la guerre de sécession, qui va devenir centrale dans la série. C'est-à-dire qu'au début de la série, avec Salvarius, on est plutôt... les héros font partie du 7e régiment de cavalerie de Fort Beau, hein, aux portes des territoires indiens. Donc là, on a plutôt un comique de troupe. Ils sont vraiment... Il y a deux autres alcooliques. Et petit à petit, nos personnages vont partir se mettre au service du 22e de la cavalerie nordiste contre les sudistes, sous le commandement de Stark. Et là, la série va vraiment développer la guerre de sécession, qui, elle, va durer donc entre le nord et le sud. Le sud étant soi-disant effectivement esclavagiste, mais il y a d'autres enjeux économiques derrière. Et cette guerre de sécession, c'est 1861-1865, et autour de ces 4 années vont se construire plus de 60 albums. Et pour construire tout ça, Lambide va demander à Covin de supprimer les personnages secondaires, et on va se centrer sur les rapports entre Blutch et Chesterfield tout au long des albums. Alors, les influences graphiques de Lambide. Pour le personnage de Blutch, c'est clairement une référence à un personnage, un dessinateur qui s'appelait Elsie Chrysler Segar, et aussi à un strip bouffon, Beetle Bailey de Mort Walker. Donc il y a une double influence, et petit à petit, contrairement à Salvarius, on va avoir un réalisme à la JG, hein, qui va se développer dans la façon de représenter les personnages qui ne sont pas nos deux héros. Et les références partagées, c'est Covin surtout, mais c'est assez partagé, c'est le cinéma. Hein. Par exemple, dans Les Déserteurs, il y a clairement une référence à un film qui s'appelle Escape from Bravo, et les trilogies de Ford, hein, la trilogie qu'on connaît, le Massacre de Fort Apache, la Sarge Héroïque, et la Rio Grande, une trilogie qui a été filmé entre 1948 et 1950. L'autre influence est plutôt dans le burlesque et les duos comiques. On peut penser, quand on voit les aventures de Blutch et Chesterfield, à Laurel et Hardy, Abbott et Costello, voire éventuellement Crazy Cat et sa souris de la série Derryman. Alors, le style des Tuniques Bleues, bien, il y a la série avec Salvarius sur les 4 premiers albums. On est vraiment dans le gros nez et la caricature, des personnages très enrobés. Et Lambide, petit à petit, va apporter une patte semi-réaliste. Le côté caricatural va rester pour nos deux héros. Et petit à petit, pour les personnages historiques, le personnage de Grant, du colonel Lagrange et d'autres gradés, Lambide va s'inspirer de photos. Et il va lui-même se dessiner devant un miroir pour la plupart des postures. Voilà, donc la série va conquérir un large public. Les thématiques, elles sont assez variables, mais classiques. C'est la thématique de la guerre, de la tragicomédie de la guerre. Bon, l'anti-esclavagisme, alors ça c'est intéressant, mais derrière ça, on a quelque chose de plus profond, c'est que, on le voit dans l'album Blackface, qui est un tournant, c'est que Covin va introduire l'idée que le Nord est aussi raciste que le Sud, finalement, par moment, mais pas de façon systématique, et que la guerre a pour objectif de faire main basse sur les richesses du Sud. Vous voyez, donc la guerre est aussi économique. Bon, il y a une grosse thématique sur l'amour des chevaux, hein, avec l'histoire d'Arabesque, Bronco Benny, c'est les tomes 8, 16 et 48 qui reviennent avec l'histoire de ce cheval. Les amours inaccessibles aussi, nos personnages n'ont pas de vie stable, même si Chesterfield essaye de courtiser Amélie, la fille du colonel Appleton, mais il s'y prend vraiment très mal et ça ne marchera jamais. Les officiers supérieurs sont bornés et lâches, on parle de Stillman qui fume son cigare et qui a rien à faire de des morts. Ils élaborent des plans avec des victimes et ils ne font aucun cas de la sécurité des soldats. Il y a énormément d'évasions manquées et des fois réussies, mais à chaque fois, les personnages se baffent. Donc la baffe revient comme un thème récurrent. Et ce qui est intéressant aussi, on l'avait souligné, c'est qu'il y a des menaces et des morts réelles. On pense à ce charnier qu'on voit dans Arabesque, le tome 48, qui est aussi le dernier album scénarisé par Covin et peut-être aussi un peu son testament, hein, à la fois montrer l'horreur de la guerre et puis la beauté de la nature avec ce cheval. Alors, la postérité de la série, elle est quand même assez étonnante, puisqu'en fait, bon, notre tandem Lambide-Covin va réaliser 64 tomes. Où est donc Arabesque ? C'est le dernier qui va sortir en octobre 2021. Covin nous quitte au mois d'août 2021. Et après, l'Ambile continue. Alors, on a deux scénaristes. Chris succède à Covin sur deux tomes. Et là, la nouveauté de l'or pour les bleus, c'est Fred Nedard qui s'essaye au scénario. On a eu un hommage test par Munumera pour l'envoyé spécial, le tome 65. Et il y a eu un collectif, les tuniques bleues, Vupar, qui était un bel hommage. On a deux intégrales avec tout un matériel critique et d'études chez Dupuis qui sont très belles, mais c'est la période Salvarius Covin. Et on a 10 tomes, double album, où les bleus présentent, où on voit toutes les thématiques, les voyages, les enfants, les femmes, les bateaux. Voilà, donc toute une façon de revisiter la série par une série d'albums. Et un tome rendu un hommage aussi à une histoire de la série. Voilà. Alors, pour clôturer notre petit hommage, on va se poser la question, pourquoi une série comme ça? Quel est le sens et pourquoi ça dure aussi longtemps? Alors, finalement, on est vraiment dans quelque chose d'assez subtil derrière l'apparente simplicité et binarité. C'est justement, on voit que cette série, elle est clairement anti-guerre et elle nous montre que les conflits ne sont pas binaires. C'est-à-dire, il n'y a pas les bons et les méchants. On le voit bien, c'est que la guerre n'est pas naturelle. Il y a des très beaux passages où on voit les soldats qui piétinent la nature et la nature qui continue à vivre à côté. C'est l'idée des chevaux aussi, et que les chevaux sont des victimes collatérales de tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que cette guerre, elle enrichit une caste, et cette caste, elle est à la fois nordiste et sudiste. Et ça, c'est assez intéressant, même en écho à notre actualité. Et se dire que l'histoire, c'est l'éternelle répétition des conflits et des stratégies pour y échapper. Alors, les tuniques bleues, on peut se poser la question, est-ce que l'habit fait le moine? Pas forcément, mais en tout cas, l'habit ne fait pas l'homme. Il y a souvent des albums où, avec la boue, avec le froid, nos personnages se retrouvent face aux sudistes et on ne sait plus qui est qui. Et ça, c'est assez abyssal de voir qu'est-ce qui nous institue homme. En tout cas, il est important de noter l'idée de l'amitié, c'est-à-dire que les deux personnages bien qu'opposés vont être complémentaires et l'un se substitue souvent à l'autre. C'est finalement Blutch qui devient un héros et Chesterfield qui finalement n'agit pas, donc c'est assez étonnant. Donc la substitution entre nos deux héros l'emporte sur la division première de leur catégorisation. Et finalement, cette guerre vue par Covin et Lambil, c'est un théâtre névrotique qui est emblématique de notre condition humaine. Et peut-être que le beau message que portent les tuniques bleues et qu'on doit méditer en cette période où il est question de guerre un peu partout, c'est que notre seule identité, c'est notre humanité. Encore faut-il ne pas la perdre. Donc, c'est l'occasion de continuer et de relire cette belle série, Les Tuniques Bleues, une série western, mais pas que, qui nous parle de l'histoire de la condition humaine. Merci, messieurs Covin et Lambil, de nous faire réfléchir et de porter si haut, finalement, le drapeau de l'humanité.